This is Infinite TV from Infinite Universes. Look.
J'ai un Gilles de la Tourette inversée. Je crie que des trucs très sympas. L'horreur.
Someone once told me time is a flat circle.
My log has something to tell you. Do you know it?
I don't believe we've been introduced.
Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans le 73e numéro d'Un épisode et j'arrête, le podcast 100% série de l'ACS, l'association française des critiques de séries, en partenariat avec Binge Audio. Cette semaine, on prend l'Eurostar, on traverse la Manche et on vous emmène en Grande-Bretagne pour faire un tour d'horizon de ce que la télé, comme on dit là-bas, nous a offert de bon, de très bon et de moins bon en cette rentrée chargée. La fameuse Pic TV, ce n'est clairement pas qu'aux États-Unis. Je suis Jean-Maxime Renaud d'Allociné, à mes côtés autour de la table. Une petite nouvelle d'abord, c'est sa première dans l'émission, Stéphanie Guérin du Parisien, bienvenue.
Hello, merci.
Mais aussi une habituée, notre joyau à nous, experte de la couronne royale britannique, entre autres, Constance Jamais du Figaro.
Salut.
Et enfin, le flegmatique et toujours chic Alexandre Buyukodabas, des Inrock. Hello Alexandre.
Hello.
Au programme du thriller conspirationniste, un enfant qui disparaît parce qu'on n'en a jamais assez, des journaux rivaux qui se font la guerre, des sorcières qui n'ont rien à envier à celles de Charmed, de la crise de la quarantaine, du sexe et le retour d'une icône de la pop culture britannique. Allez, je vous spoil, oui, on terminera l'émission en parlant du nouveau Doctor Who.
David, I'm signing you to the Home Secretary.
Very good, Mum.
To move up.
Mum, this is P.S. Bud.
Pleasure to meet you, Mum.
I'm late for a meeting. She's got an agenda to heighten fear and to seize power.
That doesn't require apologizing for the past.
Did you mean what you said?
I don't need you to vote for me.
Are we facing a state of emergency?
I need to protect me.
Rest assured, Mum. I'll do what's required.
Stay down!
Et on démarre donc avec Bodyguard, en toute logique, puisque c'est la série de la rentrée britannique en termes d'audience. Elle a battu des records à n'en plus finir. Le final a notamment été vu par près de 15 millions de téléspectateurs sur BBC One. Et elle est arrivée le 24 octobre dernier dans le monde entier sur Netflix. Alors dites-moi, est-ce qu'elle est à la hauteur de sa réputation? Et d'ailleurs, qui pourrait me résumer en quelques mots de quoi ça parle? Alexandre?
Alors, Bodyguard, c'est l'histoire d'un ancien militaire qui est reconverti dans la sécurité de personnalité. Qui est employé par, je pense, le ministère de la Défense ou de l'Intérieur, l'un des deux, et qui est affecté suite à un acte de bravoure dans lequel il déjoue un attentat dans un train, qui est affecté à la sécurité de la secrétaire d'État à l'Intérieur, qui est une femme de pouvoir à la fois extrêmement ambitieuse et très charismatique, et qui surtout a sur les dossiers, notamment militaires et de la Défense, des opinions totalement opposées à celles du personnage principal. Voilà.
Alors, est-ce qu'elle est à la hauteur de ce que tu attendais?
Alors moi, comme beaucoup, je pense, j'ai regardé la série parce qu'on m'a dit qu'elle avait un succès d'audience de dingue. Et effectivement, je pense qu'on a tous été un petit peu subjugués par le premier épisode, ou en tout cas par ces 20 premières minutes qui témoignent d'une maîtrise du suspense, de la tension dramatique et du genre, quelque part, assez inouï, qui est à peu près à l'égal des meilleurs moments à l'époque de 24 heures chrono ou de Homeland, mais avec quelque chose d'encore plus... tendu, d'encore plus léché en termes de mise en scène. Moi, il y a un aspect un petit peu soap aussi qui m'a beaucoup plu, où les deux personnages se tournent autour, où c'est un petit peu gros, mais ça marche. Enfin, voilà, j'ai été pris. Je trouve que la saison s'affaisse un petit peu dans ces... Enfin, il y a un basculement dramatique au milieu que je ne révélerai pas, mais je trouve que les trois derniers épisodes commencent à être un petit peu foutraques, que ça s'en mêle un petit peu les pinceaux dans les pistes narratives, et moi, j'ai un petit peu décroché en fin de série.
Stéphanie?
Moi, je suis assez d'accord sur la fin de la série qui s'embrouille un petit peu, mais en revanche, je trouve que la tension est maintenue du début jusqu'à la fin. J'ai rarement vu ça dans une série, une telle maîtrise de la tension. Et puis évidemment, les deux acteurs principaux qui sont extraordinaires, on connaît tous Richard Madden, Robb Stark dans Game of Thrones. Elle, on la connaît un peu moins. Killy Hawes, je ne sais pas si ça se prononce comme ça, ça s'écrit d'une manière assez bizarre.
Ça doit être quelque chose comme ça.
Voilà, qui joue donc Julia Montagu, ministre de l'Intérieur, c'est l'équivalent secrétaire d'État à l'Intérieur. Les deux forment un duo qui fonctionne extrêmement bien. Et en fait, la série parle quand même pas de terrorisme, mais sous le prisme de l'intimité. Et moi, c'est ça qui m'a vachement plu dans cette série. C'est la relation ambiguë qui est entre les deux personnages principaux. Il est son garde du corps, donc on est vraiment dans l'intime de leur vie quotidienne. Et en même temps, tout ça s'inscrit dans la politique, la menace terroriste. Donc un très très bon cocktail mené avec une tension superbement maîtrisée.
Constance.
Alors moi, ça m'a rappelé les belles heures de Jeux de pouvoir d'il y a une dizaine d'années. J'y ai retrouvé le même sens du rebondissement et la même manière de mêler toutes les couches de l'établissement britannique. On a le gouvernement, on a les services secrets et on peut pas trop le dire parce que ça déflore toute la série, mais il y a un sens du rebondissement à chaque épisode. Il y a quelque chose qui se passe qui est très gros, mais en même temps qui marche très bien parce que c'est complètement choquant. Et moi, ce qui m'a aussi touchée, c'est le personnage de David Budd parce que Richard Madden, il a pas une partition facile parce que les trois quarts de ses répliques, c'est oui madame, non madame, peut-être madame.
Avec cet accent incroyable.
Ouais. Qui est le sien d'ailleurs. Ouais. Mais il arrive quand même à transmettre des choses parce que sous ses deux ordres d'officier très intègre et très professionnel, c'est quelqu'un qui est très marqué parce qu'il a vécu au combat. Et il y a une ouverture aussi un peu psychologique sur qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre et comment on en ressort. Et d'autres séries commencent à l'aborder, mais c'était intéressant de le voir sous le prisme de quelqu'un qui continue à travailler dans des métiers à haute tension. Et ça explique aussi beaucoup son lien avec Julia Montag. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que Julia Montag, c'est de premier abord quelqu'un de très arrogant, mais ça personnifie aussi l'exercice un peu solitaire du pouvoir. Et ce qui est intéressant, c'est que pour un personnage féminin qui a de l'ambition, elle n'est pas du tout stéréotypée. Elle se conduit comme un homme et c'est accepté.
Est-ce qu'une saison 2, ça vous tente ou vous avez l'impression que les 6 épisodes permettent de conclure dignement la série, il n'y a pas besoin d'en faire plus?
Moi, je trouve que la série se conclut bien comme ça, mais on a toujours envie d'en voir un peu plus. C'est le risque, c'est le gros risque de la saison 2 qui n'était pas forcément prévu au départ. On sait que ça fonctionne rarement, mais s'ils arrivent à faire quelque chose de bien, ça peut être fantastique.
Alors on enchaîne avec un autre beau succès de la rentrée qui a d'ailleurs pris la suite de Bodyguard dans la grille de BBC One. C'est The Cry qui a été acheté chez nous par M6, un choix assez surprenant d'ailleurs, on y reviendra peut-être. Une série qui démarre sur la disparition d'un bébé et qui va nous entraîner pendant 4 épisodes entre passé, présent et futur dans l'intimité d'un couple et plus précisément dans l'intimité d'une mère troublée et troublante. Est-ce que vous avez été ému par The Cry autour de la table?
Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est des allers-retours entre l'Écosse et l'Australie?
On peut le dire, oui.
Alors moi, parce que j'étais très émue par le personnage de Jenna Coleman qui joue la mère, puisque, en tout cas, dans les premiers épisodes, c'est là où on l'aperçoit le mieux. C'est une mère qui est complètement dépassée par son enfant. C'est un enfant qui pleure beaucoup, elle n'arrive pas à dormir, elle n'arrive pas à le consoler, elle est un peu laissée à elle-même, elle n'a pas de gens pour l'aider, de grands-parents, de figures maternelles qui auraient pu lui transmettre des astuces. Et ce qui est assez touchant, c'est cette mère qui n'est pas indigne, mais qui aime son enfant, mais qui ne sait pas s'en occuper et qui en souffre, et comme l'enfant en souffre. C'est plus ce ressort-là qui m'a touchée que le parfum de thriller de The Cry qui est construit de telle manière que c'est des poupées russes, des allers-retours entre passé et présent. Et tout ce qu'on croit savoir dans les deux premiers épisodes est complètement renversé sur leur tête dans la fin. Et c'est plus ce portrait de femme qui ne s'en sort pas, et c'est un peu tabou de montrer des femmes qui ne sont pas épanouies par la maternité, que le ressort thriller et que la partie plus sur l'emprise que certains caractères, personnages ont sur d'autres, qu'on avait vu dans l'ailleurs, ça m'a paru moins fort.
Alors, c'est difficile de parler de cette série sans spoiler, donc on fait très attention. Stéphanie, est-ce que tu es du même avis?
Oui, vraiment, le personnage de la mère est extrêmement bien traité. On est touché par cette femme dès le début de la série. Et là encore, un grand jeu d'actrice, Jenna Coleman, moi personnellement, qui m'énervait un peu dans Doctor Who. Là, on la découvre vraiment sous un autre jour. Elle est d'une fragilité, d'un jeu de nuances vraiment très impressionnant. Et après, encore le sens du rebondissement, quoi. Ils sont forts, ces Britanniques, parce que là, effectivement, on a le cerveau retourné à chaque épisode, quoi.
Je suis d'accord avec toi pour dire qu'on a le cerveau retourné, mais là je trouve que l'ambition des scénaristes d'un petit peu retourner le cerveau des spectateurs est tellement visible. On a l'impression qu'ils s'amusent à tirer des petites ficelles, qu'ils avaient une narration construite à la Gone Girl et qu'ils se sont dit tiens, si on faisait un feuilleté temporel, qu'on mélangeait tout, peut-être qu'on va se dire que c'est incroyablement stylé. Et en fait, je trouve que ça flirte quand même avec la manipulation d'émotions un petit peu. Il y a quelque chose d'un peu racoleur sur l'émotion, sur le suspense. Moi, vraiment, voilà, sur la veine intime, sur ce portrait de femme, je trouve que c'est très, très réussi. Et je trouve qu'il y a une séquence dans un avion, un trajet en avion, dans laquelle le bébé pleure. Et tous les autres passagers sont complètement, enfin, en ont marre. Et qu'elle a laissé Tom McMahon de. Enfin, je trouve qu'elle synthétise à peu près, enfin, beaucoup de choses sur ce personnage, qu'elle est à la fois très fine, très réaliste. La partie disparition, je trouve ça un petit peu plus lourd.
Et en même temps, c'est un angle assez inédit, parce qu'on a eu énormément de disparitions, et pour le coup, sans trop en dire, ça, on l'avait pas encore eu. M6, juste un petit mot, ça vous étonne que la chaîne l'ait acheté?
Ouais, c'est étonnant, parce que on n'aurait pas imaginé là. En même temps, où est-ce qu'on l'aurait imaginé? Peut-être sur du Arte, du Canal+, ou du Netflix. Ces quatre épisodes, c'est un format qui, pareil, ils sont pas habitués à ça. On espère très très fortement qu'ils vont le diffuser en 2x2, parce que la série s'y prête. Pour le coup, si c'est quatre à la suite, là...
Ça dénature un peu tous les rebondissements ensuite.
Ben voilà, c'est ça.
Moi, c'est un peu, ça m'a fait la même effet de surprise d'apprendre qu'ils l'avaient acheté, quand j'ai appris que TF1 avait acheté Liar. Enfin, pour moi, c'est des thrillers anglais qu'on, effectivement, on verrait plus sur Netflix ou Arte, ou sur TMC à l'époque où ils en faisaient un peu. Mais ça fait longtemps que ce n'est plus le cas.
Maintenant, on va parler de presse. Alors pour le coup, cette série, elle n'a pas été achetée pour le moment, en tout cas par une chaîne française. C'est la nouvelle série du créateur de Dr. Foster, Mike Bartlett. Ça parle de journalisme, donc forcément ça nous intéresse. Et puis c'est assez rare finalement qu'une série en parle. Il y a eu The Newsroom sur HBO, mais c'est à peu près tout récemment. Et donc c'est la rivalité entre deux quotidiens britanniques fictifs. Le sérieux Herald a la bonne réputation, mais en perte de vitesse. Et le tabloïd Le Post, beaucoup moins scrupuleux, assoiffé par le scoop. Alors est-ce qu'on s'est reconnu, nous, en tant que journaliste dans cette série?
Alors moi, je travaille pour Le Parisien, on est un quotidien, donc pour le coup, moi je m'y suis reconnue, vraiment, beaucoup. Je trouve que ça aborde plein de problèmes de la presse d'aujourd'hui, la concurrence des gratuits, la chasse aux clics sur Internet, même si c'est pas l'aspect principal de la série, mais le choix des sujets en conférence de rédaction, qu'est-ce qu'on peut mettre à la une ou pas à la une. Enfin vraiment, parce que la presse est en crise, hein, c'est une surprise pour personne. Moi, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment très, très bien. Et puis, j'aimerais bien l'avoir en France, parce que tu dis qu'on n'a pas eu beaucoup de séries sur les journalistes. Il y a eu Ben cette année sur France 2.
C'est vrai,
c'était quand même une catastrophe au niveau de la caricature. Donc là, ça fait du bien. Et la presse écrite, effectivement, c'est pas ce qui inspire le plus. Et là, enfin, un bon thriller dans ce domaine-là.
Constance ?
Alors moi, je viens du web et donc j'ai une petite réserve parce que je trouve que la série présente très bien la dichotomie qui est au cœur de la presse anglaise, c'est-à-dire la presse de broadsheet dite de qualité, qui est l'équivalent du Monde, du Figaro et du Parisien, et puis l'équivalent tabloïd que nous, on ne connaît pas vraiment, donc qui est les femmes toutes nues sur la page 3, les titres très racoleurs. Et donc ça, il le présente bien. Et pour moi, c'est une dichotomie qui existe depuis 30-40 ans, que j'ai appris en école de journalisme quand j'étais en échange à Dublin. Pour moi, c'est la théorie des médias. Après, ce que ça dit sur le présent des médias, ça dit beaucoup de choses sur le print, mais sur le quotidien d'une rédaction web et comment la rédaction web s'articule à une rédaction print, ça dit finalement assez peu de choses. Et on reste encore dans le mythe que le journalisme print de terrain, c'est l'alpha et l'oméga de la presse. Et c'est ça qui m'a un peu déçu. Voilà.
Je suis d'accord avec ce que dit Constance, c'est que la série a quand même une ambition pédagogique, ça se voit, ou quelque chose d'assez, d'assez explicatif, de mise à plat vraiment de tous les enjeux de la presse, mais je trouve que, à force d'accumulation de différents enjeux, on parle rien que dans le premier épisode, on parle de déontologie des médias, on parle d'ingérence ou pas du pouvoir, on parle de cette espèce de course au scoop, de la manière d'aborder un sujet de manière, on va dire, putassière, entre guillemets, ou pas. Je trouve qu'on rate quelques enjeux, effectivement, plus contemporains de la presse, et que même la série, malgré ses grandes qualités d'écriture et un très, très beau sens du dialogue, je trouve qu'elle l'étouffe un petit peu sous ses thématiques, qu'il y a un petit peu trop de choses en même temps par épisode et que ça manque un peu d'air.
Et c'est au détriment du soap, finalement, parce qu'on a envie qu'il y ait un peu plus de soap et qu'on découvre un peu plus la vie perso de chaque personnage. Et finalement, c'est toujours...
C'est dommage de ne pas exploiter Ben Chaplin, qui est très séduisant et qu'on pourrait... qui est très charismatique et qui peut avoir de l'emprise sur les gens. Je trouve que c'est pas forcément appuyé jusqu'au bout.
Il est un peu réduit à son rôle de... C'est le patron de tableau. Il est un petit peu réduit à son rôle de patron manipulateur.
Alors, on sent qu'il y a quelque chose en dessous, quand même. Mais il y a autre chose. We've been together a really long time. I'd like to enjoy having sex. And I'd like to have more of it. Do you mean more sex with me? Do you want to have sex with me? Me and your dad wanted to talk to you and decided to start seeing other people. Together? Yes. In tandem? At the same time. Different people? But still together, me and your dad. So very much as we are now.
Le son que vous venez d'entendre est extrait de Wanderlust, une série disponible elle aussi sur Netflix, que l'on doit au dramaturge Nick Payne. C'est adapté d'une de ses pièces à succès et c'est l'histoire, pas forcément très originale sur le papier, de Joy Richard, une thérapeute jouée par l'excellente Toni Collette, qui tente de raviver la flamme dans son couple. Et là où ça sort un peu plus de l'ordinaire, c'est qu'elle lui propose de tenter l'aventure de la polygamie, à leurs risques et périls. Alors est-ce qu'on recommande Wanderlust ?
Alors déjà, c'est pas vraiment la polygamie, hein. C'est plus l'union libre parce qu'ils vont chacun voir de leur côté. C'est pas que lui qui a le droit d'avoir plusieurs aventures. Oui, Toni Collette, extraordinaire actrice, on l'adore. Là, elle porte la série d'entrée. Elle est plutôt bien accompagnée, d'ailleurs, par Stephen McIntosh qui joue donc son mari. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment une belle série sur la communication dans le couple. Au-delà de la sexualité, qui est effectivement un sujet énormément traité aujourd'hui, mais la communication. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette.
Alexandre ?
En démarrant la série, je dois avouer que j'ai eu très très peur. Peur pour deux choses. D'abord pour un espèce d'enrobage esthétique, très emprunté au clip, avec voilà, des jeux de couleurs, des plans un petit peu léchés partout. Et finalement, je me disais, bon, est-ce que c'est pas un vernis autour de pas grand-chose ? Il y avait aussi cet argument principal où je me disais, bon, on va encore montrer des gens qui explorent une sexualité différente uniquement pour finir par ressouder leur couple, voilà, pour faire une espèce de boucle au final, et sans vraiment ouvrir vers autre chose. Et au final, j'ai vraiment été charmé par la série, déjà par son duo d'acteurs principaux, Toni Collette et Stephen McIntosh, qui sont vraiment géniaux, et pour cette manière d'envisager le désir de manière... très réaliste, par petites touches, par petites expériences quotidiennes. C'est vraiment comment on désamorce un date Tinder qui est un petit peu gênant, comment on drague un type à la piscine. Enfin, quelque chose de vraiment très très simple, par l'expérience et par le langage, effectivement, où on discute du désir, on discute du sexe en couple, mais aussi avec ses enfants. Il y a une scène assez drôle en famille autour d'une table. On discute, il y a des grandes séquences aussi avec des thérapeutes, des psys. Elle est psy d'ailleurs et... elle recueille aussi la parole de beaucoup de ses patients sur le sexe. Donc voilà, c'est vraiment envisager le désir comme un espace de parole partagé qui prend toujours en compte l'autre avec beaucoup de bienveillance. Et j'ai trouvé ça assez réussi.
Constance, tu partages?
Alors moi, j'ai commencé la série, mais je ne suis pas encore allée jusqu'au bout. Moi, ce qui m'a touchée, c'est un peu comme tu dis, c'est cette vision du couple qui n'est pas du tout dans l'idéalisme. Enfin, ça montre clairement que dans un couple, on peut s'aimer, mais parfois on tombe en désamour, on ne sait plus s'écouter. Et c'est aussi, même si on voit plus désormais dans les séries, c'est aussi une vision de ce qu'est le couple et l'amour à 40 ans passés, une fois que les enfants sont grands, qu'ils quittent le nid, qu'on se retrouve à tous les deux, qu'on n'est plus forcément très, très beau ou très en forme. Et enfin, je trouve qu'il y a une manière assez, assez belle de l'évoquer, parce que c'est jamais dans les disputes, dans l'aigreur. Enfin, ça, comme tu dis, ça reste dans un côté très bienveillant où on en discute, on sait trouver les mots pour dire ce qui ne va pas. Et Toni Collette, enfin, je trouve qu'elle a des expressions, on sent toute son ambivalence ou toute son hésitation. Et moi, ça, je trouve que ça me bouleverse beaucoup, ouais, quand on est aussi près des sentiments comme cela. Ça me rappelle toujours les nouvelles de Stefan Zweig. Et pour moi, on ne peut pas aller mieux dans la référence sentimentale.
Je ne sais pas si vous êtes allé jusque-là, mais l'épisode 5, il est assez particulier. Qu'est-ce que vous pouvez en dire sans trop en dire en même temps? Mais c'est un face-à-face, en fait, pendant une heure quasiment.
Avec Sophie Okonedo, l'actrice qui joue en face de Toni Collette dans cet épisode. Ben toujours, hein, moi je suis sur la communication. Là évidemment, c'est deux psys face à face qui vont essayer de résoudre plein de choses. Et grand jeu d'actrice des deux côtés. Une tension encore palpable tout du long de cet épisode. Qui effectivement coupe un peu le rythme de la série, mais en même temps, c'est super bienvenu pour amener la suite et fin de cette série.
Ouais. Moi, au contraire, j'ai trouvé cet épisode un petit peu décevant et un petit peu dans la performance de regarder, on va faire tenir un épisode entier sur une confrontation de deux psys. Et je trouve que cette série-là, même si Toni Collette est extraordinaire, elle repose vraiment sur aussi toute la galerie de personnages secondaires, sur les amants respectifs et amantes respectives, sur les enfants qui ont chacun leurs histoires, leurs petits traits de caractère comiques ou dépressifs. Et je trouve que là, cette espèce de parenthèse un petit peu enfermée entre les deux, voilà, je trouve ça un petit peu long.
Alors on va rester dans le domaine de l'exploration de la sexualité avec The Bisexual, une série écrite, réalisée et incarnée par Desiree Akhavan et qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à l'un des derniers tabous à la télé mais aussi dans la société, c'est la bisexualité. C'est vrai qu'il y a assez peu de personnages bisexuels à la télévision actuellement. Et donc c'est une jeune femme qui est confrontée aux préjugés de son entourage. C'est un format dramédie de 30 minutes, je le précise parce que c'est la seule de cette émission et c'est assez rare finalement en Angleterre. Alors est-ce que vous avez été séduit par cette série qui nous fait forcément un petit peu penser à ce que propose Phoebe Waller-Bridge?
Ben voilà, justement, Phoebe Waller-Bridge, moi aussi j'ai pensé tout de suite. J'ai vu 3 épisodes. Pour le moment, j'y suis pas complètement. Il manque le ton, justement, le ton qu'a Phoebe Waller-Bridge dans ses fictions, qui a vraiment un ton particulier, très personnel. Là, oui, c'est gentillet, bon, je vois pas trop où ça va. C'est sympathique, mais pour le moment, ça manque un peu de chair.
Ça se rapproche un peu du mauvais Girls, je trouve.
Moi, je dirais pas que c'est mauvais, mais c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de beaucoup plus délié dans le rythme, effectivement. Enfin, en tout cas, de beaucoup moins tenu, de beaucoup moins rythmé que dans Fleabag, par exemple. Et j'ai effectivement eu du mal à rentrer dans les 2 premiers épisodes. Et finalement, je pense qu'au bout du 3e, je crois qu'ils ont diffusé que 3 d'ailleurs pour le moment, je commence à comprendre un petit peu ou à saisir certains charmes de cette série qui est vraiment de laisser s'étirer des séquences. Il y a des séquences de sexe qui durent extrêmement longtemps ou des espèces de soirées défoncées, des choses qui durent pratiquement sur un épisode où je trouve qu'elle crée un terrain comique comme ça, où c'est moins écrit, où on sent de l'improvisation, on sent un petit peu de l'hésitation. Et je trouve que cette hésitation dans les séquences, elle rejoint celle du personnage aussi. Et voilà, ça crée des espaces un petit peu de flottement qui sont assez réussis. Mais c'est vrai que pour le moment, je ne suis pas encore totalement charmé par la série.
Ouais, au moment où on enregistre, il y a eu 3 épisodes de diffusés, donc peut-être que ça s'améliore par la suite. Constance ?
Alors moi, j'avoue que je n'ai pas pu encore le regarder, donc je vais passer cette question.
Ok, on coupera. On termine rapidement ce passage en revue des nouveautés, d'abord avec A Discovery of Witches. Constance, je crois que tu as lu les livres dont c'est l'adaptation. Est-ce que le résultat est à la hauteur de tes attentes?
Alors moi, le projet à la base devait être un film, et donc c'est pas plus mal qu'il ait été transféré en série, parce que c'était un livre de 500 pages et qui est écrit par une historienne, donc qui est pleine d'anecdotes historiques sur le siècle élisabétain, tout ce qui est, enfin, donc l'histoire brièvement, c'est une chercheuse américaine qui obtient une bourse à Oxford pour étudier et qui est spécialisée dans l'alchimie. Donc elle étudie des anciens manuscrits et à un moment, par hasard, elle demande un manuscrit à la bibliothèque, elle le récupère et c'est un manuscrit qui est ensorcelé et qui apparemment attire l'intention à la fois d'autres sorcières, de vampires et de démons. Et dans cette série, ces 3 types de créatures fantastiques ne sont pas censées se mélanger entre elles. Elles sont régies par une loi particulière qui fait qu'elles sont chacune séparées pour ne pas attirer l'attention des humains. Et évidemment, cette sorcière qui, a priori, n'a aucun pouvoir, se fait un peu interceptée par un vampire qui est très intéressé par le manuscrit. Et après, la série essaye d'expliquer pourquoi le manuscrit est intéressant et pourquoi ce vampire et cette sorcière ont des choses à se dire. Donc, ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'elle évite un peu les clichés à la Twilight. C'est pas des vampires torturés. Il assume très bien le fait d'avoir de boire du sang, c'est parce qu'il les tourmente. Au contraire, ils sont médecins, ils veulent sauver des gens. Et ce qui est amusant, c'est que c'est des personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire, des événements historiques. Donc, il y a toujours dans la série, il y a plein d'anecdotes au fur et à mesure. Bien, j'ai rencontré Darwin ou je fais les croisades. Ce qui est aussi une bonne réussite, c'est d'avoir casté Matthew Good, qui est, à mon avis, la raison pour laquelle la série se tient. Parce que il y a des problèmes d'écriture. On a du mal à comprendre le lien entre Diana, qui est jouée par Teresa Palmer, et pourquoi elle est fascinée par Mathieu de Clermont. Et Matthew Good, avec son charisme, on arrive à pardonner les facilités de rapprochement entre ces personnages. Et donc, je trouve que c'est une série où qui ne m'achète pas totalement. Après, je me dis, est-ce que c'est pas aussi à cause du livre dont c'est tiré? Parce que le premier, il est très plein d'expositions, et l'action, c'est vraiment dans les tomes suivants. Et s'ils font des séries suivantes, ça sera une autre échelle, puisqu'on va aller dans les siècles passés. On sera plutôt vers une série en costume un peu fantastique. Ce sera plus vraiment la même optique.
Est-ce qu'il vaut mieux pas regarder Charmed? C'est la question.
Non.
Non.
Et surtout pas le nouveau Charmed.
Qu'est-ce qui t'a plu, toi, dans cette série, si ça t'a
donc
plu?
Moi, je connaissais pas du tout le livre, hein, donc j'ai découvert vraiment la série par la série. J'ai adoré les décors. On commence à Oxford. Si vous connaissez pas Oxford, faut y aller. C'est absolument fantastique. Il y a déjà eu Harry Potter qui a été tourné là-bas. Donc, ça se prête vraiment très, très bien aux histoires de magie. Le reste, même si parfois c'est censé se passer en Écosse, a été tourné au Pays de Galles. Des magnifiques paysages, encore une fois. Il y a des scènes à Venise. Enfin, franchement, au niveau des décors, on en prend mais plein la vue. Au niveau des dialogues, c'est pas trop ça, mais ça passe, on va dire. Et puis Matthew Good, extraordinaire. Il fait passer énormément de choses dans le regard, ce qui est aussi le cas de Teresa Palmer, qui a des yeux assez dingues. Donc voilà, ça se regarde vraiment très très bien.
Guilty pleasure ou pas?
Un peu.
Oui, quand même.
Complètement.
Ok. On va terminer donc avec les nouveautés sur Black Earth Rising. C'est une coproduction avec Netflix qui la proposera prochainement sur sa plateforme. Et ça met en scène John Goodman, qu'on ne présente plus, et Michaela Coel, la révélation de Chewing Gum. Alors, dans une série qu'on pourrait qualifier de judiciaire, c'est un peu plus compliqué que ça. C'est l'histoire d'une enfant sauvée du génocide rwandais de 1994 par une célèbre procureure britannique spécialisée dans les affaires criminelles internationales qui vont devoir se replonger dans ce douloureux passé une vingtaine d'années plus tard. Alors, est-ce que c'est aussi austère que ça en a l'air?
Alors, effectivement, donc l'histoire, c'est qu'il va falloir essayer de faire condamner les génocidaires du Rwanda. C'est une histoire douloureuse, évidemment, pour les personnages et pour le Rwanda, la France aussi. On sait qu'on a une histoire un peu trouble à ce niveau-là, et c'est d'ailleurs traité dans la série. Moi, je trouve qu'on a un peu du mal à rentrer, à s'attacher à ces personnages. Il y a beaucoup de politique, beaucoup d'histoires un peu techniques sur la justice internationale. Ça voyage entre La Haye, le Rwanda, ils y vont évidemment à un moment, et l'Angleterre, et la France. Enfin voilà, ça n'arrête pas. Et au final, bon, où va tout ça? Est-ce qu'on a vraiment envie de passer 8 heures devant cette série? Moi, je suis pas totalement convaincue, même si évidemment, John Goodman, toujours très très bon. Et elle aussi, Michaela Coel, qui évidemment est à 10 milliards de kilomètres de son rôle dans Chewing Gum. Et elle est assez, assez géniale.
Est-ce que vous êtes...
Alors moi, je trouve que j'ai regardé que le premier épisode. C'est un peu compliqué d'entrer dedans. Après, c'est fait par Hugo Blick qui avait fait The Honorable Woman. Donc c'est très bien documenté. Et ce qui est intéressant, c'est un peu la même perspective que sur la précédente série. C'est qu'il pose toutes les questions polémiques liées au Rwanda, mais il n'y répond pas. Donc, en fait, il remet un peu en place les arguments. Donc, il a la sagesse de ne pas répondre à tout ce que ça soulève comme questionnement sur la justice internationale, sur ce qui s'est passé, les complicités, etc. Mais, effectivement, pour moi, c'est plus didactique qu'autre chose. C'est pédagogique, didactique, mais c'est un peu aride. I'm the doctor. When people need help, I never refuse. What do we do? Why are you asking her? Because she's in charge, bro. Says who? Says us. Let's get a shift on. Legend is Exodus. Searching for euphoria. Searching through the mud to find the present. Yeah. I feel glorious, glorious. Got a chance to start again. I'm just a traveler. I was barefootous. Sometimes I see things need fixing. Do what I can. I made it through the...
Comme promis, on termine non pas par une nouvelle série, mais une nouvelle saison, celle de Doctor Who, qui a accueilli en cette rentrée son très attendu 13e Docteur, pour la première fois régénéré dans la peau d'une femme, incarnée par Jodie Whittaker, qui avait été révélée par Broadchurch. Le public britannique était au rendez-vous, et vous, est-ce que vous avez été convaincue, charmée par cette nouvelle incarnation? Constance?
Alors moi, je veux pas me faire lyncher, mais je suis une spectatrice occasionnelle de Doctor Who, donc généralement, je regarde à chaque début de Docteur, si ça me plaît, je reste, si ça ne me plaît pas, je pars. Moi, j'étais pas restée pour le passage de Peter Capaldi. Donc j'étais contente en découvrant Jodie Whittaker de retrouver l'enthousiasme, l'énergie d'un David Tennant ou d'un Matt Smith avec des intrigues relativement pas trop imbriquées dans une mythologie que je ne pouvais pas comprendre. Donc j'ai pu me raccrocher facilement aux épisodes que j'ai vus et je trouve qu'elle, elle a une énergie fabuleuse. Et ce qui est intéressant dans la série, c'est qu'ils n'en font pas tout un foin, que c'est une femme, il y a une ou deux blagues dessus. Mais après, ça reste le docteur qui est toujours dans une politique de désamorcer les conflits avec le moins d'armes possible. Et même le docteur Who retrouve un peu sa vocation pédagogique de ses débuts, puisqu'un épisode qui se déroule à l'époque de Rosa Parks. Et donc, docteur Who, à la base, c'était censé être un docu-fiction avec les moyens du bord dans les années 60-50. Et il y a quelque chose de ça qui revient, que je trouve sympathique.
Le showrunner a changé aussi, c'est Chris Chibnall, je crois que ça se dit comme ça, qui s'était chargé de Broadchurch. Est-ce qu'on sent une différence dans le ton aussi, par rapport aux précédentes saisons?
Oui, on retrouve un ton beaucoup plus léger et ça fait du bien. Pour moi, c'est vraiment un grand, grand oui. Moi, j'ai vu tous les épisodes Doctor Who, j'adore. toute la période Peter Capaldi, j'ai regardé, mais ça commençait à devenir vraiment plombant.
C'est étonnant du coup, parce qu'on s'attendait de sa part de proposer un truc plus plombant, puisque Broadchurch n'était quand même pas super fun.
Effectivement, mais là je pense que lui, qui avait déjà travaillé sur Doctor Who auparavant, mais là il en prend vraiment les rênes, il s'est retrouvé avec un terrain de jeu incroyable et il s'amuse, et nous on s'amuse avec lui et avec elle, parce que Jodie Whittaker, elle est super. Vraiment, elle a ce petit grain de folie qui va au personnage. On est dans des intrigues bouclées chaque semaine, donc voilà, on peut y venir, rater une semaine, y revenir après. Comme disait Constance, la mythologie est beaucoup plus simplifiée, même si évidemment il y a des références au passé. Mais vraiment là, je pense qu'il peut retrouver un nouveau public. C'est son but d'ailleurs, il l'a dit partout, Christine Noël. Et moi en tout cas, je vais rester.
Ça a l'air d'être le cas en tout cas, puisque effectivement les audiences sont bonnes et il y a un nouveau public, peut-être plus jeune, qui s'y intéresse. Alexandre,
ouais, tu parlais de nouveau public, je dois avouer que je n'avais jamais vu aucun épisode de Doctor Who de ma vie, que j'ai commencé du coup avec Jodie Whittaker, et que pour moi le docteur sera toujours une femme de base dans ma tête, puisque j'ai démarré avec elle et ça se passe très très bien. J'avais un peu l'impression d'être embarqué dans un jeu dont je ne connaissais pas les règles dans les premiers épisodes, mais avec une guide qui est extrêmement charismatique, qui est sympathique, qui est drôle, énergique, et ouais, j'ai été assez charmé. Et c'est vrai que cette structure de bon, il y a des épisodes plus faibles que d'autres, mais c'est vrai que cette structure d'une histoire bouclée à chaque épisode rend la série vraiment facile à aborder et charmante.
Donc on valide tous le nouveau Doctor Who. Alors on aurait pu parler de plein d'autres séries dans cette émission, il y en a plein qui démarrent là à la fin de l'automne, Butterflies, Informer, Les Misérables, The Little Drummer Girl, on en reparlera peut-être dans une prochaine émission. Merci à tous les trois pour nous avoir éclairés au cœur de cette riche rentrée britannique, merci Stéphanie Guérin du Parisien, Constance Jamet du Figaro et Alexandre Bouyukodabas des Un Rock. Un grand merci également à Jules Jelaoui pour la réalisation de cette émission. Rendez-vous la semaine prochaine pour le 74e numéro d'Un épisode et j'arrête, qui sera consacré à un débat passionnant et polémique. Les séries sont-elles devenues de longs films ? Bye bye.
Next one.
Whoa, wait.
What?
That's the last one.